RCF Notre-Dame.
Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission dédiée au management à distance. Je suis Amandine Borne, spécialiste en management des compétences et des ressources humaines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Steven Bill, expert comptable et gérant du cabinet. On parle souvent du télétravail comme d'un mode dégradé du collectif, et pourtant certaines structures en ont fait un véritable modèle d'organisation. C'est ce que nous allons explorer. Une conversation qui promet d'être riche, concrète et inspirante pour tous ceux qui souhaitent faire grandir leur leadership. Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace. Bienvenue dans cette émission.
Polychrome pour s'épanouir au travail, présenté par Amandine Borne sur RCF Alsace.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Bonjour Steven Bill.
Bonjour.
Merci de répondre présent et d'être avec nous aujourd'hui pour parler de management à distance. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Bien sûr. Merci pour votre accueil. Donc, je m'appelle Steven Bill. Je suis expert comptable depuis maintenant 12 ans. Et à côté du cabinet, j'ai encore créé une structure qui se nomme Appel d'air et qui permet d'accompagner des entrepreneurs à renouer avec leur conscience et aussi à faire le lien entre leur foi et l'entrepreneuriat.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est pour vous le bien-être au travail?
Alors, le bien-être au travail, je dirais que c'est être en capacité de s'épanouir, donc de s'épanouir et de produire de la valeur en étant au juste endroit de la contribution que l'on souhaite donner au monde.
Donc finalement, une notion de performance et de justesse.
Performance et justesse, tout à fait. Et bien sûr, être dans les bonnes conditions pour le faire, en nouant aussi des liens de confiance avec les personnes avec qui on collabore.
Alors en parlant de conditions, il y a une spécificité au sein de votre cabinet, c'est le travail à distance.
Exactement.
À quel moment vous avez fait le choix d'un fonctionnement majoritairement à distance?
Dès le début, quand j'étais seul, j'ai pris de la distance avec moi-même. Donc ça fait 12 ans. J'ai pas souhaité avoir un cabinet physique parce que j'avais la crainte de devoir être tout le temps présent physiquement pour faire de l'accueil et de respecter une certaine amplitude horaire. Et je voulais vraiment veiller à avoir un équilibre avec ma vie personnelle. Et du coup, j'avais fait ce choix. Et ensuite, il y a eu la première embauche, puis la deuxième. Et les choses se sont faites ainsi plutôt naturellement.
Ça veut dire que vous n'avez pas, en fait, de bureau?
On n'a pas de bureau au sens agence physique.
D'accord.
Après, on a un bureau dans lequel on peut se réunir, mais de manière plus ponctuelle. On peut aussi accueillir des clients. Mais il n'y a pas une agence physique qui a pignon sur rue et qui nécessite de respecter une amplitude horaire.
Mais alors la première fois que vous avez recruté, parce que quand vous travaillez tout seul, j'ai envie de dire, c'est vous-même avec vous-même. Mmh. Une fois que vous avez un premier collaborateur, un deuxième, un troisième, vous avez une équipe, comment ils ont pris ça, les collaborateurs?
La première collaboratrice l'a su dès l'entretien d'embauche, parce que c'était une condition d'embauche, c'était une manière de collaborer, donc elle était déjà au courant. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà cet enjeu de relationner et de recruter quelqu'un qui se sentait à l'aise avec ce principe. Parce que c'est pas OK pour tout le monde.
C'est particulier quand même.
C'est très particulier. Il y a des personnes qui peuvent vraiment s'épanouir dans ce mode de fonctionnement. Il y en a pour qui ça peut devenir presque une souffrance en fait et un isolement. Donc il faut veiller à faire attention avec qui on travaille bien sûr et à poser un cadre de confiance dès le départ pour que la personne soit au courant de là où elle met les pieds et de quelle manière on travaille.
Le cadre de confiance, c'est-à-dire?
Le cadre de confiance, c'est justement expliquer dès le départ en toute transparence comment on va collaborer, en disant que on sera amené à se voir, mais peu, et qu'il y aura du travail à distance, et que ça suppose beaucoup d'autonomie et beaucoup de confiance entre les deux personnes, puis les trois, puis les quatre.
Comment vous avez fait pour créer justement ce climat de confiance, cette cohésion d'équipe en étant à distance?
En toute transparence, au début, j'ai fait des erreurs.
Ok. Lesquelles, par exemple?
Laquelle, c'était de pas avoir de rituel, en fait, avec l'équipe. Surtout quand il y avait une personne. Parce que quand il y a une personne et qu'on n'est que deux, je sais que j'ai une tendance à me dire que ce sera facile à mettre en œuvre. Et comme l'autre personne, en fait, est dans la même attente et que ça lui convient, on peut avoir tendance, et c'est ce que j'ai fait, à se dire, en fait, les choses fonctionnent. Et il faut quand même mettre des rituels pour maintenir le lien, maintenir la relation. Donc, voilà, c'est avoir un cadre quand même suffisamment exigeant. Et plus le cadre est exigeant, plus on peut y mettre de la souplesse et une forme de liberté.
Donc un cadre exigeant, ça veut dire que vous avez une organisation type, des moments quand même où vous vous retrouvez en présentiel ou peut-être avec des outils de visio?
Exactement. On peut se voir à tout moment en visio, on le fait peu. On peut s'appeler à tout moment, bien sûr. Et surtout, on se voit tous les lundis matins. Donc on ouvre la semaine ensemble durant toute la matinée. Et on est en lien vraiment tous ensemble pour échanger et puis pour continuer à tisser ce lien. Et donc c'est du lien qui permet aussi d'échanger sur ce qu'on vit, ce qu'on a fait comme le week-end, etc. Donc il y a vraiment 2 heures d'échange sur comment on se sent, voilà. Au-delà même du travail et puis du planning de la semaine.
Et ça donc c'est le lundi pour démarrer, c'est en présentiel, c'est en distanciel?
Présentiel, toujours.
Ok, donc là vous pouvez vous retrouver à la machine à café.
C'est ça, ouais. On amène la machine à café à table.
Vous amenez la machine à café à table. Pour que ce soit plus simple pour gagner du temps. Mais ça veut dire que, par contre, pour faire des pauses, le reste du temps de la semaine, comment vous vous organisez? Parce que c'est quand même particulier d'être seul, finalement.
Oui, c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde. Mmh. Maintenant, les personnes qui sont là, présentes au sein de l'équipe, ça leur convient tout à fait parce que elles y voient surtout une forme de liberté pour organiser leur journée, organiser leur semaine. En plus, il s'agit de mères de famille, donc on sait qu'il peut y avoir, pour les pères de famille également, bien sûr, mais pour le coup, il y a aussi cette charge mentale qui peut être réduite parce qu'on arrive à s'organiser autour de son propre rythme de travail. Donc les pauses, elles sont, je dirais, en toute autonomie.
Donc il y a aussi une confiance de votre côté en tant que manager pour ne pas être dans le contrôle, notamment en termes d'horaire, finalement.
Exactement, ça suppose un gros lâcher prise et beaucoup de confiance envers les équipes et effectivement ne pas chercher à maîtriser ou à contrôler.
Donc ça veut dire aussi une adaptabilité dans votre mode de management.
Oui, on a la chance après dans le cabinet d'avoir des outils de gestion de saisie de temps, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les métiers. Non pas pour une relation de contrôle, mais pour une relation de gestion du temps par dossier, pour savoir quels sont les encours, etc. Donc on sait en fait que les temps sont saisis et qu'il y a une réalité de travail derrière. On peut la contrôler si on le souhaite.
Pareil que le contraire de la peur, c'est l'amour, pas le courage. Aimer, c'est courageux, c'est éternel. C'est pas une question d'âge. On débarque sur terre avec notre pureté. On ne naît que amour, on ne craint pas la dureté. On découvre la vie, les joies et les peurs. On offre notre cœur sans craindre la douleur. C'est notre âme précieuse qui s'ouvre sans peine, qui sourit au monde en semant tant de graines. Puis les années s'égrènent. On offre notre cœur, mais on n'est pas sûr. Puis on prête notre cœur, mais même là, c'est trop dur. Suis-je digne de mettre mon esprit sur la table pour parler de « je t'aime » à un monde de comptables? À l'heure où on radote et parle de croissance, dans un monde où l'amour fait parler son absence. Et si la peur du manque crée l'illusion, le paraître? Et si la peur de rater venait du manque d'aimer son être?
À quoi bon? Des professionnels transforment votre quotidien. Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace.
On aborde aujourd'hui le management à distance et pour cela, je suis accompagnée de notre invité, Steve Ambil, expert comptable, gérant d'un cabinet. Alors Steve, on a vu en première partie que votre cabinet, il est particulier puisqu'il n'a pas de bureau physique. Chacun travaille à distance, donc je suppose de chez soi, majoritairement.
Majoritairement de chez soi, oui.
Et on a vu aussi que vos équipes, elles se voient finalement assez peu. On a parlé d'un rituel du lundi. Comment vous faites pour entretenir le sentiment d'appartenance?
Alors le sentiment d'appartenance, il est très important. C'est déjà d'être relié à un projet commun. Donc il y a le projet du cabinet, ce pourquoi on est là, ce pourquoi on relationne avec nos clients et ce qu'on a envie d'apporter comme valeur. Et ça, c'est fondamental. On doit partager ensemble ce projet d'entreprise. Et bien sûr, après, par le lien, tous les lundis matins, avec des échanges beaucoup plus profonds qui vont parfois au-delà du cadre purement professionnel.
Le projet, ça veut dire que vous avez conscientisé le projet, vous l'avez verbalisé, vous l'avez rédigé, formalisé ?
Oui, en plus, on est dans une situation particulière parce qu'on mutualise nos moyens avec d'autres cabinets et on partage une marque. Donc, on partage aussi un projet avec d'autres cabinets. Et ce projet, c'est tout simplement d'être disponible pour nos clients, de les accompagner dans la réussite de leur projet et donc d'être beaucoup plus présent et beaucoup plus disponible.
Donc, vous avez travaillé les valeurs aussi.
Exactement.
On parlait tout à l'heure de rituels qui ont été mis en place pour justement travailler le lien et tisser la relation de confiance. Comment ça se passe ce rituel du lundi matin ?
On se voit donc de 9h à midi. Donc de 9h à midi, on échange sur comment s'est passé notre week-end. Est-ce qu'on a des sujets particuliers de manière générale, qu'ils soient professionnels voire même personnels, parce qu'il y a quand même un bon lien de confiance. Et donc on discute. C'est vraiment du, je veux pas dire du café du commerce, mais presque. C'est un moment très léger où il n'y a pas vraiment d'attente particulière et on se concentre vraiment sur le lien entre nous.
Donc il n'y a pas d'ordre du jour.
Non, l'ordre du jour, c'est justement de laisser libre cours aux échanges et puis de faire du lien.
Et est-ce qu'il y a d'autres rituels que vous avez mis en place ?
Il y a un autre rituel qui est de vraiment déjeuner, de se prendre le temps de faire un bon déjeuner une fois par mois. On est tous des gastronomes en plus dans l'équipe, donc voilà, c'est essentiellement ça. Et après, c'est les deux seuls rituels qu'on a.
Et donc le plus important, c'est lequel ? C'est celui du lundi matin ou c'est le restaurant ?
Je dirais les deux, mais bien sûr, pour faire le lien, c'est vraiment la régularité, la constance et le fait de s'attacher à se voir tous les lundis matins.
Donc finalement, ça veut dire que il y a une capacité à être autonome, mais il y a aussi une capacité à être en confiance et puis à prendre plaisir finalement à se retrouver. C'est presque au-delà de relations professionnelles.
Oui, voilà. Bien sûr, ça reste professionnel. On a toujours il y a un vrai cadre professionnel, mais parfois ça le dépasse dans le sens où quand on est vraiment en lien avec des personnes qu'on apprécie, ben on relationne avec, on partage. Donc c'est un lien qui est beaucoup plus naturel et puis on gagne beaucoup en authenticité au fur et à mesure des semaines.
Vous avez de l'authenticité, j'ai entendu aussi de la confiance, mais vous managez à distance. Alors comment vous faites pour identifier les signaux faibles à distance type fatigue, isolement, surcharge, démotivation ?
Alors justement, le fait de se voir toute une matinée, même si c'est qu'une fois par semaine, permet quand même de percevoir ce genre de choses parce qu'on les partage. On ne peut pas être authentique à se raconter nos vies, entre guillemets, sans dire, bah, tiens, là, en ce moment, cette semaine, c'est compliqué, ou je redoute telle tâche, telle masse de travail. Il y a beaucoup plus de clarté, en fait, et de transparence dans les propos. Et c'est beaucoup plus facile d'en discuter quand on se voit sur un long temps que même si on était présent et tout le temps ensemble au cabinet entre voilà, 2 minutes, un coin de porte, on n'arrive pas forcément à capter ces signes faibles.
Ou la fameuse machine à café.
Et la fameuse machine à café, voilà.
Finalement, ce temps que vous prenez le lundi matin, c'est pas du temps de perdu, c'est du temps investi pour en gagner après, pour mieux se connaître. Et c'est finalement du temps de qualité.
Exactement, en fait. C'est un investissement immatériel, une fois par semaine, pour garantir de bonnes relations, une bonne fluidité dans le travail tout le reste de la semaine.
Et alors, vous disiez aussi, il y a, pour certaines personnes, c'est pas forcément adapté. Est-ce que vous avez eu dans les recrutements précédents des gens qui sont venus et qui sont repartis ?
Alors, non. On n'a pas eu cette malchance. Ça s'est toujours bien passé parce que le premier entretien était souvent le bon et parce que les choses étaient dites dès l'entretien. Et donc, elles venaient en connaissance de cause. Si maintenant les choses n'avaient pas été claires, il y aurait pu y avoir une forme d'inconfort. Donc ça s'est toujours bien passé. Il y a un petit temps d'adaptation quand même, parce que c'est vrai que c'est pas un fonctionnement courant, mais ça s'est toujours bien passé.
Et est-ce que vous aviez déjà managé précédemment, avant cette expérience-là, ou c'est votre première expérience de management ?
C'est ma première expérience. J'ai déjà eu 2 ans pour me manager moi-même, ce qui n'était pas une mince affaire. Mais effectivement, manager des équipes, c'était vraiment ma toute première expérience.
Qu'est-ce que ça vous a appris, justement, cette expérience-là, sur les besoins humains au travail ?
Ça m'a appris que le travail, c'est pas juste un espace pour travailler. C'est un espace où on passe quand même beaucoup de temps. et dans lequel l'épanouissement ne dépend pas juste des tâches qu'on a à faire et de notre fiche de poste. C'est beaucoup plus large que ça. Et ça permet aussi de se dire que c'est un espace dans lequel on peut relationner de manière plus large et ne pas se limiter en fait à ce qu'on représente ou au poste qu'on occupe.
Et s'il y avait d'autres entreprises qui aimeraient passer aussi sur ce mode de fonctionnement, ce serait quoi pour vous les conseils pour réussir à créer du lien sans présence physique ?
Alors déjà, le premier conseil, ce serait de ne pas imposer, parce que le télétravail, c'est quand même particulier, et tout le monde n'est pas prêt à en faire, ou tout du moins, tout le monde n'est pas prêt à en faire 5 jours sur 5, ça c'est clair. Donc je dirais qu'il faut avoir une forme de se mettre à niveau en fait de l'ensemble des collaborateurs et presque faire du cas par cas en fonction des personnes qui sont déjà présentes. Parce que c'est toujours plus compliqué quand les personnes sont déjà présentes que quand elles arrivent et qu'on peut poser un cadre de confiance ensemble. Donc c'est essentiellement ça, se mettre à niveau des attentes de chaque collaborateur et avoir le système le plus souple possible. Et bien sûr l'adapter en fonction des contraintes des entreprises, parce qu'il y a des équipes qui doivent être présentes physiquement ensemble à certains moments de la semaine. Donc c'est mixer un ensemble de choses entre les besoins personnels de chacun et les besoins de l'entreprise.
Et vous avez mis en place des outils spécifiques, des logiciels spécifiques, des modes de communication privilégiés en fonction des thématiques ?
Le mode de communication, c'est essentiellement du téléphone. On s'appelle, voilà. On préfère s'appeler. Après, s'il y a des réponses qui sont pas forcément nécessaires immédiatement, c'est du mail. Donc on fonctionne soit par mail, soit par téléphone, essentiellement. Et puis après, bien sûr, les logiciels, alors surtout dans notre métier, ça nécessite quand même d'avoir des process en place, parfois même des procédures sur la manière de produire les choses et d'utiliser les mêmes outils. Parce que sinon, chacun fait sa tambouille de son côté et puis là, on s'en sort plus.
Et par rapport à ces process, c'est vous qui les avez designés, ça a été co-construit, comment ça a été mis en place ?
Ça a été co-construit avec les autres cabinets avec qui on partage justement plusieurs ressources, notamment une personne qui a vraiment fait tout un travail de SAP pour se mettre à la place des collaborateurs. Parce que faire des processus et des procédures, ça peut devenir compliqué quand ça devient trop bureaucratique et quand il y en a partout, mais ça reste quand même un moyen de faciliter la vie au quotidien des collaborateurs et c'est important de pouvoir se reposer dessus, surtout quand on fait du télétravail essentiellement.
Au milieu des affamés, des opprimés et des victimes, crois-tu en Dieu ? Au milieu des guerres, des vampires et des tempêtes, crois-tu en Dieu ? Je te retourne la question. Au milieu des merveilles, des miracles et du vivant, crois-tu en l'homme ? Au milieu des rêves, du beau, des enchantements, crois-tu en l'homme ? Je n'ai pas ta preuve que Dieu existe, mais je le ressens. Ma vérité circule en moi et dans mon sang. Je ne saurais pas le nommer ni même le dessiner, mais je sens sa présence d'où je viens. Où je vais. Je crois en la magie quand elle ne s'explique pas, et je crois en ce qui vibre au plus profond de moi.
Polychrome, pour s'épanouir au travail, RCF Alsace.
On poursuit notre discussion avec Steve Ambil, expert comptable et gérant d'un cabinet pas comme les autres, où il y a majoritairement du travail à distance. Et donc le thème, c'est effectivement le management à distance. Steve, avec le recul, qu'est-ce que cette organisation a changé de votre vision du travail ?
Je dirais que ça donne une vision beaucoup plus libérée. J'ai toujours eu du mal à cloisonner la vie professionnelle et personnelle. C'est important de la cloisonner d'une certaine manière pour pas s'y perdre. Et d'un autre côté, garder une forme de liberté en se disant qu'on peut être à l'aise avec le fait de prendre un rendez-vous chez le médecin ou d'aller à la kermesse de son enfant sans avoir à quémander un jour de congé ou à négocier quelque chose avec son employeur. Je pense que ça permet de vivre beaucoup plus sereinement aussi.
Ça veut dire que du coup, il y a l'intégration de la souplesse aussi dans l'organisation du travail ?
Oui, exactement. Pour donner un exemple précis, dans le fonctionnement de l'équipe, elle travaille toute à 35 heures par semaine, mais on a décidé de le faire sur 4 jours et demi. Sur 4 jours, c'était un petit peu juste en termes d'organisation. Et donc, elles ont la possibilité de se prendre une demi-journée dans la semaine. Une demi-journée qui peut changer d'ailleurs, c'est évolutif, tous les 15 jours en fait. La seule contrainte, c'est qu'avec 15 jours d'avance, moi je dois être au courant des demi-journées qu'elles ont prises pour qu'on puisse s'organiser et puis pour pas les appeler non plus au mauvais moment.
Donc ça veut dire que le lundi matin, quand vous retrouvez, il y a un échange aussi qui est fait sur cette demi-journée ?
Ponctuellement, oui. Après, on a des agendas partagés, donc on sait exactement D'accord. comment ça se passe. Il peut y avoir une demande, tiens, est-ce qu'il y a un rendez-vous en commun ou quelque chose qui est prévu. Mais en s'organisant en amont tous les 15 jours, ça permet de ne pas avoir de surprise.
Et est-ce qu'à un moment donné, pour vous, ce serait envisageable de revenir sur un mode de fonctionnement majoritairement présentiel ?
Pour moi, personnellement, non, car je tiens à ma façon d'exercer ma liberté. Par contre, bien sûr, pour les équipes, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, elles savent qu'à un certain moment, si elles veulent revenir 2 ou 3 jours par semaine au bureau, on se débrouillera pour le faire. Donc il faut aussi garder cette liberté d'évoluer en fonction de changement de comportement ou de besoins.
Et alors, selon vous, quelles sont les erreurs que font encore beaucoup d'entreprises quand elles mettent en place du télétravail ?
Alors, je pense qu'il peut y avoir plusieurs biais. Le premier, c'est de se sentir obligé à mettre en place le télétravail. Parce que si un employeur commence à subir ce fonctionnement, ça va être bien peut-être à court terme, mais à moyen long terme, ça va coincer. Parce qu'il va y avoir des reproches, il va y avoir peut-être même une souffrance de l'employeur qui a besoin d'une certaine forme de contrôle. Donc je pense que ça nécessite déjà pour l'employeur ou le manager d'être en phase avec lui-même et avec ce choix pour qu'il se sente prêt lui aussi à l'assumer. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et la deuxième, c'est qu'à partir du moment où on le fait, se dire que chaque collaborateur a sa singularité, est différent et qu'on ne peut pas imposer la même chose à tout le monde. C'est la deuxième. Et la troisième, ensuite, c'est bien sûr de sécuriser l'entreprise, de sécuriser le projet et de faire en sorte que cette liberté qu'on donne se fasse aussi dans le sens et pour le bien du projet et que ça ne remette pas en cause des problématiques d'organisation.
Ça veut dire aussi que finalement, il y a un travail préparatoire du côté du manager pour accepter de lâcher un petit peu de contrôle, des choses qui ne vont pas forcément être visibles. Ça ne veut pas dire forcément d'être dans l'extra-liberté.
Exactement, et je dirais même plus lâcher l'illusion du contrôle.
On est d'accord.
Parce que être manager, être dans les mêmes locaux, être même présent toute la journée, ça ne veut pas forcément dire être présent pour ses équipes et ça ne veut pas forcément dire qu'on a le contrôle de toute chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire du présentéisme aussi. Donc voilà, il y a d'autres sujets dans le management qui sont encore plus larges. Quoi.
Qui peuvent naviguer sur les sites internet, faisant croire effectivement qu'ils sont en train de travailler, mais ils sont sur leur ordinateur, mais à faire d'autres choses.
Exactement.
Donc finalement, c'est plutôt instaurer ce cadre de confiance qui va être important.
Exactement, ce qui prime, c'est le résultat. Et donc, au profit de quoi, en fait, on fait cette organisation, c'est pour avoir des résultats. À partir du moment où les clients sont satisfaits, où les échéances sont respectées, parce qu'on est un métier d'échéance, en fait, les livrables, ils sont atteints. Et donc, moi, en tant qu'employeur, je suis content. Et puis, je sais que ça peut nourrir ma confiance envers l'équipe.
Ça veut dire aussi que, du coup, dans votre vision du travail, vous n'êtes pas forcément dans une vision « il faut faire ses horaires », mais plutôt dans une vision d'objectif et de laisser le collaborateur libre de choisir les moyens d'atteindre ses objectifs.
Exactement. Et donc là, c'est aussi, ça rejoint la question d'avant sur les enjeux, les erreurs à ne pas faire. C'est aussi le faire avec des collaborateurs qui sont suffisamment matures, émotionnellement, je dirais, et qui sont organisés et qui ont un bon niveau d'autonomie.
Donc du coup, qu'est-ce qui fait qu'une équipe reste une équipe, même quand elle travaille loin les uns des autres ?
L'authenticité du lien, vraiment. Le fait de s'apprécier, de vouloir travailler ensemble, de pouvoir s'appeler à tout moment, et surtout de se faire confiance les uns les autres.
Et alors en conclusion, parmi tout ce qu'on s'est dit, quels sont les points clés à retenir ?
Le point clé, je dirais qu'il faut pas se limiter, que tout est possible, que le travail à distance, c'est tout à fait faisable s'il y a ces liens de confiance et que si c'est accepté des deux côtés. L'autre point clé, c'est tout de même avoir des rituels pour équilibrer ça. Parce qu'on peut pas non plus faire n'importe quoi, entre guillemets. Faut quand même sauvegarder ce lien et puis l'entretenir. Parce qu'un lien, ça s'entretient chaque semaine. Et je dirais que le troisième, c'est aussi de ne pas limiter le bien-être et la relation au travail à une fiche de poste. Mais se dire que c'est beaucoup plus large que ça. C'est qu'est-ce qu'on attend, en fait, de sa relation au travail? Qu'est-ce qu'on attend du lien, de la relation qu'on entretient avec les personnes avec qui on collabore, quoi.
C'était Polychrome pour S'épanouir au travail. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté cette émission consacrée au management à distance. Un grand merci à Steven Bill, expert comptable et gérant du cabinet, pour la richesse de ses partages, ses éclairages concrets et son engagement au service de l'épanouissement professionnel. Nous avons exploré ensemble comment faire équipe quand on n'est pas dans le même bureau. J'aimerais également remercier Théo Giandoni pour l'assistance technique et la qualité de son accompagnement tout au long de cette émission. Si cet épisode vous a inspiré, vous pouvez le partager autour de vous, en discuter avec vos équipes et poursuivre la réflexion dans vos pratiques managériales. Pour cela, retrouvez le podcast sur notre site internet rcf.fr/Alsace. Je vous donne rendez-vous à la prochaine saison et d'ici là, prenez soin de vous et de votre management.